refusé par des ONG de recevoir des dirigeants de pays faisant entorse aux droits humains, Washington a précisé avoir invité tous les pays membres de l'Union africaine en excluant, conformément à l'organisation, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Soudan, ainsi que l'Érythrée, pays avec lequel les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques. Enfin, un voyage officiel de haut rang a été annoncé en Afrique en 2023.
Merci beaucoup, Dili. À présent, nos invités pour débattre de tout cela. Avec moi ici en studio, Jean-Claude Zamba, analyste politique et ingénieur en agro-business. Sur Skype, nous aurons depuis le Convention Center, où se trouve donc Johan Schmonsis, le porte-parole en français du département d'État. Nous l'aurons d'un moment à l'autre certainement. Via Skype, ici à Washington, René Lec, analyste politique, consultant et journaliste. Et toujours sur Skype de Bruxelles, Henri Désiré Zouzi, analyste diplomatique, producteur associé du JT Diplomatique. Alors merci à tous d'être avec nous. Jean-Claude Zamba, l'un des premiers événements de ce sommet était consacré justement à la diaspora africaine. Plus de 2 millions de migrants africains, dont beaucoup sont bien formés, bien intégrés dans la société américaine, n'est-ce pas? Alors pourquoi la diaspora fait partie de la stratégie américaine de Washington?
Je pense que l'Amérique a compris la place de la diaspora. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple en Chine, dans la région de Guangzhou, on voit bien que ce sont des Africains qui sont des intermédiaires de compagnies chinoises, mais également du gouvernement chinois. Mm-hmm. Déjà en 2010, nous avions adressé une lettre à M. Obama par rapport à cet effet-là, qu'il fallait se concentrer sur la diaspora américaine, qui a été éduquée ici, qui connaît beaucoup de ses principes américains, c'est-à-dire les valeurs américaines, que ce soit au niveau des droits de l'homme, que ce soit au niveau de tout ce qui constitue le tissu industriel, mais également qui sont formés dans vraiment de grandes universités. Et utiliser, travailler avec ces Africains-là pour voir comment ils seraient en mesure d'être un apport soit à la politique américaine vers l'Afrique, ou alors être vraiment comme un tampon qui peut être utilisé dans différents pays africains. Ils parlent plusieurs langues, ils connaissent très bien les cultures africaines. Absolument. Et également les cultures américaines.
D'accord. Alors, René, quel message l'administration Biden a-t-il voulu donner en relançant le sommet des dirigeants pour vous?
Écoutez, c'est un retour sur la scène africaine. La scène internationale s'est déjà fait depuis un moment avec la réintégration des États-Unis aux accords sur le climat, par exemple, et sur des tas d'autres questions multilatérales. Mais là, c'est vraiment le retour concret à l'Afrique après une pause de 4 ans. L'ancienne administration c'était beaucoup désengagé de l'Afrique. Les investissements directs en Afrique sous l'administration Trump étaient tombés à moins de 50 milliards de dollars, comparé aux 100 milliards de dollars avant, avec sous l'administration Obama. La chute était importante, Abdourahman.
Oui, alors Henri, après l'annonce de la nouvelle stratégie américaine, des États-Unis depuis le mois d'août par le secrétaire d'État, le sommet des dirigeants se tient à Washington. Qui explique selon vous ces actions diplomatiques américaines envers l'Afrique dernièrement?
Bon, rappelez quand même que ça fait 8 ans qu'il n'y a plus eu de sommet États-Unis-Afrique, ce qui montre quand même que l'Afrique n'est pas vraiment une priorité pour les États-Unis, sauf évidemment lorsque ses intérêts semblent contrariés par l'émergence d'autres acteurs. Mais le plus important, évidemment, c'est que l'on puisse renouer les fils du dialogue. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui est important pour les États-Unis, c'est de pouvoir utiliser cet événement comme une vitrine lui permettant de réaffirmer à la fois son attachement et sa détermination à œuvrer sur le continent africain. Mais si cela se fait dans l'optique de contrarier la Chine ou la Russie ou d'autres acteurs, il est important quand même de rappeler que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les Chinois, par exemple, ont investi globalement près de 735 milliards de dollars sur 25 pays, 25 zones économiques et commerciales spéciales dans 16 pays africains, alors que dans le même temps, les Américains n'ont en fait investi que 22 milliards. Donc, il y a du chemin à faire, mais ce qui est important aussi pour les Africains, c'est de pouvoir faire prévaloir leur point de vue sur des questions extrêmement importantes qui nécessitent évidemment un soutien américain.
D'accord. Alors, Jean-Claude Zamba, pourquoi l'investissement et surtout les petites et moyennes entreprises pourraient être le meilleur moyen pour les États-Unis de marquer leur différence par rapport aux autres acteurs comme la Chine?
Ben, je pense qu'il s'appuie sur le modèle américain. Quand vous regardez au niveau des États-Unis, qu'est-ce qui contribue grandement au développement sur le plan économique des États-Unis? Ce sont les petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi il y a un bureau qui s'appelle le Small Business Administration, qui est là pour suivre en fait ces compagnies-là, mais également s'assurer que quand les grosses compagnies ont des grands contrats, ils ont une contrainte de passer un certain pourcentage de ces projets qu'ils reçoivent du gouvernement à ces petites entreprises. Mais également, vous avez des petites entreprises au niveau de l'Afrique. Nous n'avons pas de géants comme les géants américains. Donc, en se focalisant sur les petites et moyennes entreprises, qui sont généralement composées de femmes et de jeunes, ça donne une dynamique parce qu'aujourd'hui, on a plus de 60% de la population qui est jeune. Nous avons la réhabilitation de la femme sur le marché du travail, mais également sur le marché de l'entrepreneuriat. Il est clair qu'en ayant une politique de ce genre, on touchera au plus large.
D'accord. Alors, René, dans ce contexte de compétition internationale, la doctrine du trade not aid, un peu, le commerce est au lieu de l'aide, lancée sous Clinton, est-ce que c'est un peu la réponse face à la Chine et à la Russie aujourd'hui?
Oui, on peut le dire dans une certaine mesure où aujourd'hui l'administration Biden insiste en particulier sur les échanges dans le secteur privé, que ce soit le secteur privé américain vers l'Afrique et le secteur privé africain vers l'Amérique. Il se dit, je suis sûr que l'on pourrait voir une prolongation de la loi sur l'AGOA qui se termine en 2025 et qui pourrait être prolongée de 5 ans. Si cela se confirmait, effectivement, ce serait un peu le schéma dans lequel on est et dans lequel se place les administrations américaines depuis Clinton, comme vous l'avez dit.
Mmh. Et Henri Zouzi, l'insistance de Washington sur les questions de bonne gouvernance, est-ce que ça peut être un facteur gênant dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique quand d'autres pays comme la Chine n'en font pas vraiment en préalable?
Vous savez, déjà en 2014, lors du premier sommet convoqué par Obama, il était question de bonne gouvernance, mais force est de remarquer qu'en 8 ans, il n'y a pas eu la moindre évaluation sur cet engagement-là, ce qui est un peu dommage. Et je pense que les États-Unis gagneraient en crédibilité, surtout vis-à-vis des opinions publiques africaines, en évitant de se servir, par exemple, de l'Afrique comme une variable d'ajustement lorsque ses intérêts sont menacés. Il faut donc, quand des engagements sont pris, qu'on puisse avoir une idée éventuellement de la manière dont chacun a pu les respecter et ne pas, d'une certaine manière, être dans l'air du temps à un moment où pratiquement toutes les puissances émergentes ont leur propre sommet avec le continent africain. Certains ont pris un peu d'avance avec des actes très concrets. Les États-Unis ne sont pas en reste, mais doivent encore faire la démonstration que tous les 2 ou 3 ans, par exemple, il est possible de refaire le point sur un certain nombre de sujets.
Alors cette doctrine, en fait, la bonne gouvernance est très importante pour les États-Unis. C'est un facteur bloquant. En même temps, on pourrait reprocher aux États-Unis de faire fi de ses propres principes.
Je pense que dans certains cas, oui, ça peut être un facteur assez bloquant, mais je pense que les États-Unis doivent en fait regarder et comprendre ce qui se passe en Afrique et se dire comment est-ce que nous pouvons être plus engagés. Et c'est ce que la Chine ou la Turquie ou la Russie ont compris. Nous allons commencer à vous aider dans des domaines dont vous avez le plus besoin et au fur et à mesure, on va commencer à parler d'autres sujets qui peuvent être un peu gênants. Parce que quand on parle de bonne gouvernance, quels sont les mécanismes mis en place pour former ces gouvernements pour la bonne gouvernance? Quand on parle de l'entrepreneuriat, quelles sont les mesures mises en place sur le continent pour accompagner les entrepreneurs, que ce soit les femmes ou les jeunes? Il y a autant de choses qui doivent être mises en place et pas juste de venir dire on va donner 55 milliards, mais comment on accompagne surtout au niveau de la transformation, sachant que sur le plan agricole, les États-Unis ne veulent pas mettre en place un programme de sécurité alimentaire qui va être en compétition avec son système agricole américain.
Alors, on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs laissés sur la page page Facebook de VOA Afrique, archiduc Théodore Ndiamena nous dit « Le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique est un moment crucial pour revoir le système d'appui américain dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la politique des États africains. Nous sommes dans des régimes violents qui répriment, mais qui sont incapables d'assurer une sécurité complète. » Yao Marcelin Kofi à Abidjan nous dit que le continent n'aurait jamais obtenu ses promesses sans la diversification de ses partenaires. L'influence de la Chine, la Russie et de la Turquie est une réalité. C'est l'Afrique qui gagne à ce sommet États-Unis-Afrique. Et puis l'Asgasek à Dakar. Il nous dit que l'administration Biden cherche à travers ce sommet à replacer les USA au cœur de l'Afrique. Le président Biden, en diplomate averti, a l'intention de reprendre, entre guillemets, le driver's seat en Afrique au regard de l'influence de Pékin et de la montée en puissance de la Russie sur le continent africain. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une très courte pause.
Sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
De vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités. Ici en studio, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Vous êtes également ingénieur en agro-business. Via Skype, ici à Washington, René Lec, analyste politique, journaliste et consultant. Et de Bruxelles, toujours sur Skype, Henri-Désiré Zouzi, analyste diplomatique et producteur associé du JT Diplomatique. Jean-Claude Zamba, sur l'aspect sécuritaire, quel peut être l'apport des États-Unis aux pays africains qui font face au terrorisme et à d'autres groupes armés?
Ben, ça, c'est une très bonne question. On l'a vu par rapport à l'Irak, on l'a vu par rapport à des pays comme l'Ukraine. Pourquoi est-ce que ce qui se passe en Ukraine ne se passerait pas également au niveau de l'Afrique? Le problème sécuritaire africain est de longue date. On ne parle pas d'aujourd'hui, depuis la chute de Kadhafi. Donc, les mêmes milliards qui sont mis pour assister l'Ukraine par rapport à ce qui se passe par rapport à la Russie pouvaient être mis en place pour l'Afrique. Donc, la question pour nous est de savoir pourquoi deux temps de mesure. Si la même phase était mise en place pour le problème sécuritaire, par exemple au niveau du Sahel, je pense qu'on ne parlerait plus de ces mêmes problèmes aujourd'hui.
Henri-Désiré Zouzi, cette critique du deux poids deux mesures concernant l'Ukraine et l'Afrique, c'est fondée. Ah, on me dit que Henri Zouzi n'est plus là. Peut-être c'est une question à laquelle René peut répondre également, n'est-ce pas? Cette critique des deux poids deux mesures, elle est fondée ou pas?
Oui, écoutez, les intérêts stratégiques des États-Unis ou de toute autre puissance sont différents selon les espaces dans lesquels ils interviennent. Donc, il est évident que la stratégie américaine d'intervention au plan sécuritaire en Ukraine ne peut pas être la même que celle qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Mais en Afrique, abdoirement, il ne faut pas oublier, il y a le camp Le Monnier à Djibouti, qui est le seul camp où il y a une présence militaire permanente américaine sur le continent. Mais il y a également un camp de drones aujourd'hui au Niger, qui a joué un rôle extrêmement important. Et je crois que donc il y a un engagement, et bien entendu il y a le retour de l'Amérique en Somalie, des militaires américains en Somalie, 500 forces spéciales qui ont été redéployées, que Trump avait demandé il y a 18 mois de les retirer.
Alors justement, est-ce que c'est pas un peu de l'opération en Somalie il y a quelques années, il y a plusieurs années, qui peut-être a un peu influé sur la position sur le plan sécuritaire des États-Unis, René, concernant l'Afrique?
Certainement. Certainement, Burman, ça a joué un rôle important. Il y a eu un traumatisme important à la fois au niveau militaire, mais surtout et en particulier au niveau de l'opinion publique américaine. C'est vrai que les États-Unis y regardent à deux fois avant de se lancer dans des opérations de nature particulièrement, j'allais dire, de guérilla, quasiment de réponse, de contre-guérilla sur le continent africain, parce que ce ne sont pas des guerres traditionnelles comme celles auxquelles ils sont habitués dans le reste du monde.
D'accord. Alors, Henri, je crois que vous êtes de retour avec nous. Sur l'aspect sécuritaire, les États-Unis sont aussi attendus dans la stabilisation de la région des Grands Lacs, n'est-ce pas?
Alors, d'emblée, je dirais que cette volonté de pouvoir se réengager vient surtout du fait que nous avons, d'une part en Afrique de l'Ouest, un désengagement progressif, pour ne pas dire définitif, de Barkhane, et une montée en puissance de la Russie à travers Wagner dans des théâtres d'opérations aussi variés que le Mali et la Centrafrique. Donc, bien évidemment, l'ambition américaine est tout à fait noble, car il s'agit aussi et surtout de ne pas laisser libre cours ou libre champ à d'autres acteurs qui pourraient effectivement à terme contrarier les intérêts vitaux américains, car il est important dans le contexte actuel de se souvenir que les États-Unis gardent quand même une influence importante sur certains acteurs. On pense notamment au Rwanda à travers le soutien apporté au M23, et je rappelle qu'entre 2013 et 2021, ce groupe armé est entré en hibernation parce qu'effectivement à l'époque déjà Barack Obama avait tapé du poing sur la table, ce qui montre bien qu'il y a une réelle influence que les États-Unis peuvent, j'allais dire, exercer dans cette partie de la région, de la sous-région en Afrique, mais surtout en RDC.
Et sur ces questions de l'insécurité, tous ces conflits dans la région des Grands Lacs, quelle est votre lecture, Jean-Claude Zomba? Que les États-Unis peuvent faire?
Je pense que les États-Unis ont un rôle vraiment important, parce que déjà la RDC étant un des potentiels grands poumons de l'Afrique, et le Rwanda qui a pas mal d'accès sur le plan diplomatique mais également américain, nous savons que M. Kagame a été formé aux États-Unis. Il est vraiment clé que l'Amérique en fait s'implique un peu plus loin dans ce conflit qui se passe.
Mais on a vu les prises de position très claires d'Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, sur cette question notamment.
Et je pense que derrière, ils sont en train de faire également un travail. Je ne serais pas surpris que dans les mois qui suivent, les années qui suivent, vraiment ce conflit soit réduit à quelque chose, juste quelques hommes. Et je suis vraiment confiant que quelque chose va se passer d'assez positif pour le Rwanda, pour le Congo, mais également pour l'Afrique.
Mmh. Alors, René, quel type de coopération voyez-vous entre les États-Unis et les pays africains touchés par le terrorisme et l'instabilité aujourd'hui? La question terroriste dans le Sahel, on sait que c'est une question qui intéresse certes les Européens, mais également les Africains, les Américains plutôt.
Oui, surtout dans un contexte d'un retrait stratégique plus ou moins réel des Français dans la région au Sahel. Donc, on a parlé du camp des drones au Niger, qui joue un rôle extrêmement important en termes de reconnaissance, en termes d'intelligence. Il y a la coopération déjà entre les États-Unis et des pays comme la France et Interpol de manière générale en termes de partage d'informations avec les différents pays de la région. Mais il y a surtout et en particulier la question de la formation militaire et sécuritaire des pays du Sahel. Donc l'implication américaine au plan militaire est essentielle, d'autant plus que vous savez, Abdourahmane, pour les États-Unis, en dernier ressort, c'est une question de sécurité nationale. Hein. Vous savez, ce qui motive les Américains avant tout, c'est la question de la défense de leurs intérêts nationaux. Et à ce titre-là, la situation de sécuritaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général est une question centrale par rapport aux intérêts à la défense nationale américaine. D'accord. C'est comme ça que les États-Unis ont toujours vu cette question-là.
Voilà. Nous devrions avoir Johan Schmonsis, le porte-parole en français du département d'État. Depuis le début de l'émission, on n'a pas pu le joindre pour des raisons techniques. On me dit qu'il est là maintenant, mais au téléphone. Alors, Monsieur Schmonsis, bonjour, bonsoir.
Bonjour de Washington.
Alors, vous êtes au Convention Center où se déroule, ce forum des dirigeants États-Unis-Afrique. On est à la fin de ce sommet. Pour vous, quelle leçon il faut tirer de ce sommet États-Unis-Afrique?
Bon, le sommet jusqu'à maintenant a été un grand succès. On a réuni les chefs d'État de la quasi-totalité des pays africains, ou bien leurs représentants. Il y avait plein de discussions entre eux et le gouvernement américain pour sur les grands sujets, les grandes questions qui comportent le continent actuellement. Et ça a vraiment fait à approfondir et élargir le partenariat entre les États-Unis et les pays africains et le peuple.
Alors, Johan, on a entendu le président Biden mercredi prononcer un discours où il a été beaucoup question d'économie avec la signature prochaine d'un accord avec la zone de libre-échange africain, la ZLECA. Pour vous, la diplomatie, elle doit être plus économique aujourd'hui pour les États-Unis en Afrique?
En fait, l'agenda du sommet est très large. Ça comprend aussi des questions sécuritaires, aide humanitaire, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, etc. Paraissait un peu notre réalisation que l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir de nous tous et que les intérêts américains sont liés de façon très proche aux intérêts africains. Comme vous savez, on a signé quelques accords avec des pays individus et annoncé plusieurs projets, etc. Alors, je dirais que l'économie et le commercial, ça va avec l'aspect sécuritaire aussi. Et toutes les autres matières.
Donc l'économie et la sécurité vont ensemble. Alors peut-être je vais terminer avec vous en vous demandant aujourd'hui quel type de coopération sécuritaire justement vous voyez avec l'Afrique dans ce contexte d'insécurité, mais également de présence russe sur le plan militaire.
En fait, pour chaque défi qui confronte le continent maintenant, pour chaque problème, il y a un effort africain pour le résoudre. Et nous cherchons à nous joindre aux efforts africains et aux pays africains, nos partenaires qui cherchent des solutions à ces problèmes sécuritaires, et aussi aux institutions et aux organisations régionales et internationales qui lutte pour résoudre ces conflits. Toujours on travaille au travers de nos partenaires. Par exemple, la communauté de l'Afrique de l'Est et l'Union africaine, etc. Les partenaires africains sont là sur le terrain, ils connaissent le terrain mieux que nous et nous prenons notre conseil de.
D'accord. Alors, peut-être une révélation ou pas, le président Biden va-t-il se rendre en Afrique avant 2024?
Je n'ai rien annoncé jusqu'à maintenant, mais comme vous savez que le sommet n'a pas encore conclu, il y a toujours il y a plein de manifestations aujourd'hui, il y a des interventions des chefs d'État, il y a des discours du président et du secrétaire d'État. On peut voir quelque chose, encore des annonces, mais pour l'instant, je n'ai rien.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre dans cette émission Washington Forum qui est terminée. Je remercie énormément mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube également. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.